Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, locataire oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Radio Capi, la fréquence de la paix, qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, effectue depuis près d'une semaine une visite officielle dans les provinces de l'espace Grand Kasaï. Partout où il est passé, la population lui a réclamé, entre autres, l'accès à l'eau et l'électricité, la construction et l'amélioration des infrastructures de base, notamment routes, hôpitaux, écoles. Et selon vous, que faut-il faire d'une manière efficace pour répondre à ses besoins dans ces provinces? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission mise en onde par Bob Landou et réalisée par Louange Vango. Et pour moi, Pierrot et la Mengi, c'est un réel plaisir de vous la présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mengi.
Notons et rappelons qu'hier, le président Félix Tshisekedi était à l'étape de la province du Sankuru. Et pour faire le point sur ce périple du président de la République, nous avons associé à cet échange Monsieur Alphonse Ngoy Kasanji, député national, élu de Mbujimayi au Kasaï Oriental et ancien gouverneur de la province du Kasaï Oriental et notable du Grand Kasaï. On peut le présenter ici, hein. Monsieur Alphonse Ngoy Kasanji, bonjour.
Bonjour Pierre et la Magie, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Merci d'avoir accepté notre invitation et nous vous présentons nos voeux le meilleur au nom des paroles aux auditeurs.
Merci, c'est pareil pour vous et pour tous les auditeurs.
Alors vous avez été avec le chef de l'État dans l'étape de la province du Kasaï oriental, vous y étiez, et il a pu aussi faire la province de la Lomami. Comme je le disais tout à l'heure, les problèmes qui sont posés sont presque les mêmes. Mais revenons d'abord par rapport à la symbolique du voyage lui-même en tant qu'élu, ancien gouverneur, mais aussi notable de l'espace Grand Kasaï. Quelle est votre réaction par rapport à ce voyage du chef de l'État avant qu'on puisse aborder les questions de fond?
Bien, le chef de l'État, comme il le fait partout ailleurs, dans tous les pays, il était temps qu'il descende dans l'espace Grand Kasaï, parce que il n'y avait jamais été depuis son élection, près de 3 ans. Et donc, pour se rendre compte de ce qui a été fait, donc parce que l'argent est allé là-bas pour les infrastructures, comment ça a été réalisé, qu'est-ce qui reste à faire, quelles sont les attentes de la population face à ces promesses faites lors de la campagne électorale et quelles solutions envisager pour pouvoir répondre à ces attentes. Donc voilà un peu brièvement ce que je peux dire sur le voyage du chef de l'État.
Alors, on sait que vous l'avez dit, l'argent a été peut-être déboursé, qu'est-ce qui a été fait? Peut-être il faudra attendre la fin du voyage global du chef de l'État pour qu'on puisse dégager des problèmes qui se posent. Mais est-ce que vous vous rendez compte, vous qui avez été sur terrain, vous vous rendez dans l'espace Grand Kasaï régulièrement parce que vous êtes élu de Mbujimayi, est-ce qu'il y a aujourd'hui un fossé entre les attentes de la population en termes d'infrastructures et ce qui devait être fait aujourd'hui? Est-ce que vous avez cette impression entre le gouvernement central et les véritables attentes de la population?
Il y a certainement... Il y avait de l'espoir, mais en tout cas, jusqu'à présent, ces espoirs ne sont pas réellement rencontrés. Et donc, il y a les inquiétudes, et le chef de l'État se devait de donner des assurances à cette population, et il l'a fait. Il a promis fermement que l'année 2022 sera l'année des grandes actions. Enfin, qu'il revienne en 2023 demander le suffrage de ce peuple. Et okay. Donc, il a promis fermement à Bonjola, il a dit 2022, nous mettrons en œuvre notre programme, notre premier programme qui n'a jamais été réalisé dans ce pays, le programme des 145 territoires. Nous allons travailler directement à la base pour pouvoir répondre aux attentes de la population.
Alors, la problématique dans notre émission, c'est de pouvoir aujourd'hui dégager des pistes de solutions qui peuvent accompagner les actions qui peuvent être menées au niveau du pouvoir public. Et vous avez géré la province du Kasaï oriental, comme d'autres compatriotes qui ont géré toutes les autres provinces dans l'espace Grand Kasaï. Les gens réclament l'eau, l'électricité, ce sont le besoin, on peut dire aujourd'hui, que les gens considèrent comme prioritaire dans cet espace, mais y compris aussi la question des infrastructures. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut changer d'approche ou peut-on avoir une nouvelle approche aujourd'hui pour permettre à ces provinces d'avoir l'accès à l'électricité aujourd'hui? Faudrait-il toujours attendre le gouvernement central ou estimez-vous qu'il y a une autre approche qui peut être abordée aujourd'hui pour permettre à ce que cette question de l'eau et l'électricité soit résolue dans ces provinces?
Moi, je crois que l'approche pragmatique est celle proposée par les chefs de l'État, de travailler directement avec la base. La centralisation a montré ses limites. Le gouvernement central avait tout centralisé, les finances, il ne mettait pas à la disposition des entités territoriales, territoriales décentralisées les moyens, leurs moyens pour leur permettre de se développer. Et donc, dès lors que on travaille directement avec les 145 territoires, les autorités des territoires, même si elles sont décentralisées, à leur côté, les élus que nous sommes, nous allons accompagner cela, et la société civile. Et donc, cette approche pragmatique de travailler directement avec la base, faire en sorte que la mise en œuvre des projets proposés pour répondre aux besoins sociaux de base sera vraiment effectif.
Alors, quand vous évoquez la question de travailler directement au niveau de la base, est-ce qu'on peut dire en d'autres termes que l'approche au niveau des institutions, parce que le chef de l'État, vous rappellerez dans son discours, dans son dernier discours, il a aussi fustigé le fait qu'il n'y avait pas un suivi, qu'il n'y avait pas une corrélation entre les projets, une coordination des projets au niveau du gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon de pouvoir contourner cette problématique-là de manque de coordination d'ensemble des projets qui ont été initiés au niveau du gouvernement?
Il s'est fait un constat amer que, au lieu que le gouvernement soit responsable de projets de développement, donc amorcés, il y a plutôt une cacophonie tout autour de cela. Les conseillers du président de la République qui s'approprient des projets, et ça crée un désordre. Nous, au niveau du Parlement, nous ne savons pas contrôler les conseillers du président. On ne peut pas les interpeller. Donc nous contrôlons le gouvernement. Voilà pourquoi il faut responsabiliser les ministres sectoriels et les autorités des entités territoriales des bases décentralisées, de manière à permettre un contrôle à la base. De cette façon-là, les députés provinciaux auront un rôle de contrôle sur le gouverneur, sur les chefs de secteur, ainsi de suite, et même les sénateurs aussi, ils travailleront avec les députés provinciaux. Nous, les élus nationaux, nous allons être derrière le gouvernement de la République, les ministères sectoriels, pour voir, pour faire les suivis de l'exécution des projets. Parce que le peuple attend aujourd'hui de l'eau, il faut donner une réponse clair en termes de dessertes en eau, il faut donner une réponse claire en termes de dessertes en électricité. Il y a des projets qu'il faut initier, par exemple de photovoltaïque. C'est direct, ça ne prend pas beaucoup de temps. Dès qu'on construit une centrale photovoltaïque, on a l'électricité directement dans les entités territoriales de base et il y a un contrôle et un suivi clair.
Mais on sait aussi que le secteur de l'eau, les secteurs d'électricité sont les secteurs qui ont été aujourd'hui libéralisés, mais on ne sent pas la présence du secteur privé, des opérateurs privés dans ces domaines. Ça reste encore, on peut dire, le monopole de l'État, même si sur le plan de fait, ça a été libéralisé. Est-ce qu'il y a la possibilité aujourd'hui de pouvoir permettre à des acteurs privés, par quel mécanisme, pour qu'ils puissent aussi investir dans ces domaines? Ça peut épauler l'État d'une manière ou d'une autre.
Comme vous le dites, c'est libéralisé. Donc, il faut prendre des initiatives. S'il y a un acteur privé qui dispose des moyens et qui propose quelque chose de clair à l'État, je ne crois pas qu'il sera empêché de pouvoir exécuter son projet. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas ces acteurs-là. Donc, on les sensibilise de venir, d'investir. Et alors, à ce moment-là, il faut qu'ils aient aussi de l'intérêt. Vous savez qu'il se pose un problème sérieux des pauvretés dans nos milieux ruraux. Et donc, quelqu'un qui investira doit pouvoir rentabiliser son investissement. Et donc, voilà, là où se pose un problème, la rentabilisation des investissements. Et dans les milieux ruraux, il y a la pauvreté extrême. comment est-ce qu'on payera cette électricité, parce qu'il faut payer les factures d'électricité que vous consommez. Voilà, c'est pourquoi l'État a cette responsabilité directement de trouver des solutions en attendant les investisseurs privés.
Alors, on va revenir à vous, Monsieur Alphonse Ngoué Kassangi, député national, ancien gouverneur de la province du Kassai-Oriental. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont sur notre standard pour commenter ces sujets autour du voyage du chef de l'État dans l'espace Grand Kassai, les demandes de la population, comment répondre à ces demandes d'une manière efficace. Vous êtes nombreux à vouloir commenter ces sujets. Déo, vous êtes à Lubumbashi et Laurent est à Kananga. Merci de nous avoir rejoints. Déo, vous êtes avec nous, bonjour.
Je suis avec vous. Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à l'honorable Ngoué Kassangi et à tous les auditeurs de la radio Kapi. Merci à tous.
On vous écoute.
Et oui, la thématique de ce jour est très pertinente. Et la visite officielle du chef de l'État dans l'espace Grand Kassai, en fait, le président de la République devrait lancer ce genre de visite de la première année de son mandat. Parce que nous travaillons, le président de la République, sa fonction est constitutionnelle, c'est-à-dire la constitution lui donne le temps d'exercer son pouvoir et de terminer son mandat. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous considérons que cette année 2022, c'est comme une année préélectorale donc des élections présidentielles de 2023. Ce qu'il fait là, nous pouvons considérer que c'est une pré-campagne. Parce que tout le temps qu'il a eu à passer de voyager dans les pays européens et asiatiques, même si c'est dans le cadre de la diplomatie, il allait d'abord commencer par ce genre de visites sur le plan national pour s'enquérir de la situation. Qu'est-ce que la population a besoin?
Mais alors, pour ne pas peut-être revenir, parce que la visite là a déjà été faite, les gens ont pu exprimer leurs besoins. Là où nous évoluons pour savoir comment, d'une manière efficace, qu'est-ce que vous proposez par rapport à cela. Mais rappelons que le chef de l'État était dans la partie est du pays, il était dans le Grand Katanga, il a fait une fois une partie du nord du côté de la province de l'Équateur. Cela veut dire que les visites ont déjà eu lieu. Mais alors, parce qu'il faut évoluer avec le débat, alors... Oui. Les gens ont réclamé. Oui, qu'est-ce que vous estimez
réussir, oui. Pour qu'il puisse réussir à son programme là, parce qu'il reste avec peu de temps au pouvoir, nous voulons que pour que qu'il puisse prendre des projets urgents, des programmes urgents dans ces territoires là, dans ces provinces, pour que la population puisse bénéficier à l'heure des desiderata, parce que lorsque la gestion de ces projets est confiée toujours aux politiciens, nous voyons. Il y a les détournements et des bavures qui se commettent. La population ne voit pas les actions concrètes. Là, vraiment, il faut créer des comités de suivi de ces actions-là.
Voilà.
Prendre la société civile de la place et les autorités de la place pour qu'ils puissent faire l'évaluation et le suivi de ces projets-là, enfin de réaliser tout ce qui est comme besoin à la population.
Parce que
ça fait longtemps, la population demande l'eau, l'électricité, le courant. Ça ne va pas. Pays,
alors, pour vous, vous estimez de haut, pour vous, vous estimez que le problème, parce que vous avez évoqué la question du détournement, que ça arrive dans plusieurs projets. Oui. Alors, pour vous, il faut un suivi dans ce programme à la base. Il faut un suivi. Il faut associer la société civile. Et il faut éviter que tout soit piloté seulement par les politiciens, parce que vous avez évoqué les cas de détournement. Ça, c'est votre proposition. Alors, nous allons écouter Laurent qui est à Kananga. Laurent, d'une manière efficace, qu'est-ce qui doit être fait pour que ce besoin de la population, ces besoins exprimés dans l'espace Grand Kassai en termes d'eau, électricité, infrastructure de base, puissent être satisfaits d'une manière plus efficace? Laurent, bonjour.
Bonjour Pierrot et Lamenji, bonjour à l'invité l'honorable Ngoué Kassangi, meilleur vœu à toute la nation congolaise.
On vous écoute, oui.
Je pense que la tournure du chef de l'État s'inscrit dans le cas de la redébabilité. Le chef de l'État est redébable devant la population qu'il avait élue en 2018. Le chef de l'État est la première personne qui est censée rencontrer les doléances ou les inputs de la population afin de les transformer en action à impact visible. Je pense que la tournée du chef de l'État n'est pas une simple fête. C'est une tournée vraiment très importante, parce que le président ne peut pas se mettre devant Kinshasa. Il doit descendre sur le terrain pour s'enquérir de la situation de sa population. Parce que vous savez que non, à une année, il y aura les élections. Maintenant, ce qui a craint, c'est quoi? C'est l'inertie où le, c'est l'inertie de tout ce que le président dit. Nous nous attendons du chef de l'État, les actions à impact visible. Voyez aujourd'hui, avec les détournements par les ministres et les conseillers. Maintenant, c'est l'occasion pour le président de la République de se saisir de la justice afin qu'on punisse tous ces conseillers, tous ces ministres qui ont détourné le projet destiné dans l'espace Grand Qatar. Et je pense aussi que le remaniement ou la retouche dans les cabinets du président de la République serait aussi mieux pour la bonne marche du pays.
Merci beaucoup Laurent. Vous estimez que au-delà de tout, hein, il faut des actions à impact visible. Mais ces actions ne peuvent pas se faire si il n'y a pas l'accompagnement de la justice, parce qu'il y a des cas de détournement qui vont et qui reviennent. Mais il faut aussi retoucher le cabinet du chef de l'État, parce que vous estimez qu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent à ce niveau qui ne permettent pas que les projets puissent aboutir. Et ça, pour vous, ce sont des mesures efficaces pour accompagner la réponse aux besoins de la population dans cet espace. Justin, vous êtes à Arou. Merci de nous avoir rejoint dans Parole aux auditeurs. Bonjour.
Bonjour, monsieur J.R. Lumière. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de la radio Capi. Meilleurs vœux à vous tous.
On vous écoute, Justin. Vous êtes avec Pierrot sur les antennes.
Oui, c'est avec Pierrot. Merci beaucoup. C'est aussi la première fois que je participe à cette émission Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup.
Oui. Nous saluons la visite du chef de l'État pour cette tournée dans l'espace Grand Kassai pour vivre et voir le mode de vie du peuple congolais. Mais nous demandons qu'il ne puisse pas s'arrêter seulement au Grand Kassai, mais plutôt qu'il arrive dans toutes les 26 provinces et dans tous les 145 territoires qui compte la République démocratique du Congo. Nous espérons que ça sera un bon signe pour le peuple congolais, monsieur les journalistes. Et ça nous faisait très mal quand le président partait chaque fois en Europe et partout au monde au lieu de visiter son pays et voir comment vit sa population pour essayer d'améliorer les sociales de la population. Nous demandons aussi au chef de l'État que toutes les promesses qu'il est en train de donner au peuple congolais soient concrétisées. Nous sommes fatigués, monsieur le journaliste, avec des discours irréalisables.
Merci beaucoup. Justin, on a perdu Justin, mais lui, il souhaite que le chef de l'État se rende.
Je suis toujours à ligne.
Ok, vous êtes encore là. Allez-y rapidement. Alors, concrètement, d'une manière efficace, qu'est-ce qui doit être fait? Vous souhaitez qu'il y ait la concrétisation directement des actions plutôt que les promesses. Rapidement.
Oui, et donc, selon moi, il fallait que le président, lorsqu'il promet, il promet une chose, et d'un coup, soit un mois, ou après deux mois, ou après un mois, et nous voyons la réalité. Nous sommes fatigués avec des paroles. Nous voulons la pratique, monsieur les journalistes.
Merci beaucoup, Justin. Vous êtes à Arou et vous souhaitez que les chefs de l'État se rendent dans toutes les 26 provinces. Alors, maître Edmond Bokolo, vous êtes à Mbandaka. La population réclame l'eau, l'électricité. Et la problématique aujourd'hui pour nous, c'est que faudrait-il faire d'une manière plus efficace pour répondre à ces besoins de la population? Les problèmes réclamés dans le Grand Kassai, ça peut être aussi les mêmes problèmes que vous avez, par exemple, dans l'espace Grand Équateur, si il faudrait utiliser les termes avant pour évoquer toutes les provinces issues du démembrement de la province de l'Équateur. Alors, pour vous, d'une manière c'est plus efficace, qu'est-ce qui doit être fait, maître Edmond?
Oui, merci. Je vous salue. Mes salutations à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Je pense que en fait, moi, personnellement, je suis parmi les gens qui soutiennent toujours les actions du chef de l'État. Et nous espérons toujours qu'il peut faire mieux, plus mieux encore. Et aujourd'hui, là, avec la tournée que le chef de l'État a pu amorcer, lui-même s'est rendu compte de la situation macabre de sa population congolaise. Je pense que dans les quelques provinces qu'il a sillonnées, lui-même, d'ailleurs, j'ai vu même les images où lui-même a fait plusieurs heures pour traverser une province après une autre, ou même son véhicule a été bloqué, pour nous dire que la situation des infrastructures publiques, par exemple les routes, par exemple, c'est une situation vraiment au lambeau. Et le chef de l'État ici, parce que s'il se confie à son gouvernement, à son premier ministre qui est inactif, je pense que le chef de l'État ne saura pas réaliser les quelques projets qu'il a l'intention d'imprimer à la en faveur de la population. Moi, je pense qu'ici, pour que les projets, les différentes priorités, notamment eau, électricité, infrastructure et les autres, soient efficaces durant cette année, le chef de l'État lui-même doit prendre à main ses projets. Donc, il doit lui-même superviser ses projets, les différents projets. Lorsqu'il lance les projets 100 jours, vous allez, par exemple, dans les grands équateurs vers l'Issala, vous trouvez, par exemple, des affiches, mais on n'a même pas posé un acte. Vous allez vous venez chez moi, ici, en Banaga, à l'Équateur, c'est la même chose. Voilà pourquoi, ici, moi, je pense que, avec la situation de l'eau, par exemple, il n'y a pas la relie, les eaux ne fonctionnent quasiment pas. Vous avez l'électricité. Moi, je pense que chez moi, en Banaga, si vous venez, vous allez vivre dans les noirs. Vous devez utiliser les panneaux solaires pour s'alimenter légèrement. Et puis, infrastructure routière, c'est macabre. Moi, j'ai fait, par exemple, le Guémena jusqu'à l'Issala, Bumba. Mais il faut voir la situation de route. Donc, la situation est vraiment difficile. Et j'ai pris au chef de l'État lui-même d'avoir les soucis de la population. Qu'il évite de confier les bons projets au gouvernement. Le gouvernement n'est pas redevable. Le Premier ministre n'a rien à voir avec la population. Même aujourd'hui, les projets ne sont pas réalisés. C'est lui, c'est qui sera face à la population en 2023. Et nous qui le soutenons, nous avons besoin que lui-même supervise ses activités. Il puisse avoir des commissions au niveau de chaque province, ou les responsables de chaque province des commissions, pour que ces différentes commissions puissent suivre à la loupe les différents projets et lui faire rapport directement, au lieu de passer par le gouvernement, qui est inexistant, et le Premier ministre qui ne fait rien. Je pense que ce sera là
merci.
Ma contribution.
Merci beaucoup Edmond. Et vous l'avez dit, pour vous, il faut carrément ignorer le gouvernement, parce que vous ne sentez pas la présence du Premier ministre avec son gouvernement. Il faudrait que les actions qui sont initiées à la base, par exemple, il y a eu le programme de lutte contre la pauvreté, il y a le programme 100 jours, il y a eu le projet Tchilé-Gélou, qui ont posé beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que ça a été confié au gouvernement et que le gouvernement ne répond pas, alors que c'est le chef de l'État qui est comptable direct auprès de la population. Et pour vous, il faut mettre en place des commissions dans des provinces, dans les territoires, qui doivent suivre les projets initiés par le chef de l'État plutôt que passer par le gouvernement. Kalo, vous gardez la ligne, vous êtes en Boujmaï. Nous revenons dans ces studios pour donner la parole à notre invité. 081-890-4969. 081-890-4969. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine consacré à la visite officielle du chef de l'État dans l'espace Grand Kassai et des mécanismes à mettre en place pour répondre aux besoins de la population d'une manière efficace.
Parole aux auditeurs.
Alors nous revenons à vous, Monsieur Alphonse Ngoué-Kassangi, député national élu de Mbujimaï et puis ancien gouverneur de la province du Kassai Oriental. Quand vous écoutez les auditeurs, il y a un problème, ça dit que c'est un problème de fond. On estime qu'il y a, on peut dire qu'il y a un rideau entre les initiatives du chef de l'État, le gouvernement, et ce que la population doit vivre, et que les chefs de l'État répondent directement à la population, alors que tout passe par les gouvernements, où on sent qu'il y a des problèmes. Et c'est pourquoi les auditeurs, il y en a même qui ont demandé les commissions de suivi, il y en a qui ont même demandé de retoucher carrément les cabinets du chef de l'État. Hier, dans l'émission qu'on a eue sur les priorités 2022, 80% de nos auditeurs ont même demandé le remaniement du gouvernement. Quelle est votre réaction par rapport à toutes ces propositions de compatriotes?
Il est certes vrai qu'il faut que les chefs de l'État, en ce moment ici, s'agissent des hommes, les hommes capables de l'aider à relever le défi. Mmh. Donc il ne nous reste qu'une année. Bon, l'année 2023 sera une année des élections, des campagnes à gauche, à droite. C'est maintenant cette année 2022 que les choses, que les lignes doivent bouger. Et elles doivent bouger dans ce sens que, au niveau du gouvernement, les ministres léthargiques, les mettre dehors, choisir les hommes pragmatiques qui peuvent l'aider et pris du patriotisme, de l'amour de ce pays. Dans son cabinet, bon, le cabinet du chef de l'État ne doit pas être l'exécutant des projets. Donc, le constat mère fait est que, dans beaucoup de projets, en commençant par le projet 100 jours, le Tchilé-Gélou, lutte contre la pauvreté, les conseillers sont toujours là. C'est comme si c'est eux qui exécutent les projets en lieu et place
du gouvernement.
Gouvernement. Alors que si le gouvernement travaille, eh ben nous, parlementaires, nous devons contrôler. On ne peut pas contrôler la présidence de la République. Donc voilà pourquoi toutes ces choses, que les conseillers du président restent conseillers du président. Que le gouvernement qui est responsable d'exécuter les projets des sociétés de ce pays, initiés conjointement entre le président de la République, le Premier ministre,
oui.
mette, exécute les travaux pour nous permettre à nous parlementaires de faire les suivis et de sanctionner au cas échéant. Alors, maintenant qu'il y a le projet de 100 jours, le programme de 100 jours, et de quoi le programme de 145 territoires. Les 145 territoires, c'est l'approche à la base.
Mmh.
Et donc, ça, j'apprécie. Et voilà pourquoi moi, j'ai proposé ceci, des solutions pragmatiques. On remet le moyen aux autorités des donc des entités territoriales décentralisées. On leur remet le moyen et on responsabilise la société. Dès qu'on décaisse les moyens, par exemple pour l'électricité, directement, les ministres sectoriels doivent être là, disons, dans le projet. On ne peut pas écarter les ministres sectoriels. Ils doivent être là. Et en termes d'électricité, nous construisons une centrale photovoltaïque à Miabi, par exemple. L'administrateur du territoire est responsabilisé. Le chef de secteur de l'entité où la centrale sera construite est responsabilisé. La société civile fait les suivis. Le gouverneur de province également fait les suivis. Le montant est communiqué. Donc, et le projet, le timing d'exécuter le projet est communiqué à tout le monde. Et de cette manière-là, au niveau national, il y a un suivi efficace. Au niveau du Parlement, au niveau de la province, l'Assemblée provinciale fait les suivis. Et au niveau de la base également, la société civile fait les suivis. Voilà les solutions pragmatiques qu'il faut faire. Quand on confie le projet, on dit comité de pilotage, où vous trouvez les conseillers du président qui font n'importe quoi, qui ne comprennent pas qu'on a confié au président de la République une grande responsabilité. Une grande responsabilité, et le peuple attend de lui des actions claires, des réponses claires en termes de besoins sociaux de base. Et donc, l'eau, l'électricité, les routes, les désenclavements de nos territoires, les désenclavements de nos provinces, c'est attendu par le peuple. Et cette année s'avère une année déterminante pour pouvoir répondre à toutes ces questions et proposer des solutions pragmatiques.
Alors, voilà, vous avez évoqué tout à l'heure la question du patriotisme, hein, parce que quand on regarde les débats tels qu'ils se déroulent, les dénonciations même, parce que vous avez évoqué l'interférence des conseillers du chef de l'État dans les projets. Dernièrement, on a fait un tour dans la province du Kassai central. On a vu comment les gens se plaignent sur les projets 100 jours, qui devait piloter quoi, l'argent devait passer par qui devait faire quoi, et tout ça, ça pose problème. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous avons aussi un problème de vision entre ce que le chef de l'État veut exactement pour le développement à la base, et c'est que l'ensemble des personnes qui l'accompagnent dans cette vision, on peut dire qu'il y a, les gens n'ont pas la même vision pour l'exécution des projets sur terrain et résoudre les problèmes de la population.
Les gens ont la vieille mentalité, hein, la vieille mentalité de regarder la poche, hein, au lieu de servir la nation. Donc Albert Einstein a dit, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais ceux qui les regardent sans rien faire. Et donc, nous devons aujourd'hui rompre avec cette mauvaise mentalité. Dénoncer le plus vite que possible, quand vous voyez les actes de détournement qui ne permettent pas la mise en œuvre du programme du président de la République. Il est un peu du sens. Il aime le pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Mais l'entourage, c'est qui devait l'aider à mettre en œuvre cette vision, cette bonne volonté, sont là en train de détourner. Et donc la sanction doit aussi être à l'ordre du jour. Vous voyez, donc on a dénoncé par exemple les 14 millions détournés, ainsi de suite. Il faut que ceux qui sont à la base de ces détournements soient sanctionnés, que la justice se saisisse rapidement de ces dossiers, pour que le reste du programme, les financements qui seront mis en exécution, donc pour exécuter le projet, ne soient pas de nouveau détournés. Quand ils verront qu'il y a une sanction, on a sanctionné, on a arrêté, on a mis en prison ceux qui ont détourné, eh bien, tout le monde aura peur.
Hein? Voilà.
Tout le monde aura... L'impunité ne doit pas être tolérée. Et donc, moi, je propose d'abord la sanction à l'endroit de ceux qui ont détourné les fonds pour exécuter le projet 100 jours, le projet gilet gelou, le projet de lutte contre la pauvreté, etc. La sanction. Et maintenant, on doit travailler directement avec la base en impliquant tous les acteurs, donc la société civile et les autorités des entités territoriales décentralisées.
Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y a notre compatriote Laurent qui nous appelait des Kananga qui a évoqué la présence de la justice hein, pour accompagner ces actions-là. Alors, Kalo Kalonji, vous êtes en Mbujima et Espérant est ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange, Kalo. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour messieurs les journalistes, bonjour à l'honorable Moïta Sange qui est dans votre studio. Je pense que la visite du chef de l'État dans notre espace Kassai, alors moi je trouve que c'est une visite pour nous conforter parce que nous sommes délaissés. Et vous pouvez voir que la chanson « L'eau et l'électricité », tout ça, les routes, c'est une chanson qui date de longtemps, même dans le temps de Moïta Sange que vous qui est avec vous là. Mais ce qui est à la base de tout ça, c'est la manière de voir des choses. La vision qu'a le chef de l'État vis-à-vis du Congo, ce n'est pas la même vision pour les gens qui l'entourent, qui entourent les ministres. C'est-à-dire ici, le chef de l'État, je le trouve seul. Vu d'abord ses discours dans notre espace, je le trouve, il est seul effectivement, qui a compris que non, le pays doit quitter les lieux où il se trouve pour aller de l'avant. Vous pouvez voir ici dans notre province, par exemple pour le cas de, je suis au Kasaï oriental, pour le cas de Tchilejeune par exemple, vous voyez un conseiller du chef de l'État qui arrive ici, qui commence à défendre par exemple les entreprises qui ont gagné les marchés, pendant qu'il y a un contrôle citoyen qui dénonce les détournements. Un conseiller du chef de l'État qui passe même sur les ondes, qui commence maintenant à polémiquer avec les élus du peuple de la province. Je me dis, lui, en tant que conseiller, quelle est sa place dans cette histoire ici de Tchilejeune? C'est-à-dire, ce monsieur ici doit avoir une rétrocommission vis-à-vis de ces gens-là comme entreprise. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je propose d'avoir trois pistes de solution. Mm-hmm. Pour qu'il y ait un développement dans notre province, je vous assure, l'honorable là peut me donner raison. La première des choses, on doit revenir à ce que la Constitution a parlé, c'est la retenue à la source. On commence le développement par la base. Comment? On passe par la retenue à la source. Les autorités qui sont là ont les moyens et on les contrôle, ils vont booster ça. Sinon, il y aura toujours une main noire de Kinshasa, parce que nos provinces sont détruites par une main noire de Kinshasa. Et la deuxième des choses, il faut aussi instaurer leadership responsable dans nos provinces. Ici, on doit voir quand même les gens responsables, l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. On ne peut pas nous mettre des gens parce qu'ils sont de tels partis politiques, ils défendent tels partis politiques de l'Union sacrée. Nous avons besoin des gens qui doivent travailler chez nous. Et en dernière position, je vous propose quelque chose aussi. Vous savez, le chef de l'État n'est pas redevable devant le Parlement. J'ai déjà entendu les gens qui confondent les choses. Le président de la République, il est là dans notre constitution, il est passif. Il n'y a que le gouvernement qui est actif. Mais lui, il est derrière le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment, ici, l'honorable Moïka Sange, il doit passer par le contrôle sérieux au niveau du Parlement. C'est-à-dire ici, le gouvernement doit comprendre que ce n'est pas le président de la République. Bien que les gens disent toujours, en 2023, si l'homme va répondre de tout ce qu'il a fait, non. Devant notre constitution, le président de la République, selon notre constitution, il est passif. L'actif ici, c'est le gouvernement. Quand il trouve que ça ne va pas, moi, à mon niveau, je propose au président qui nous écoute, parce que je l'ai dit quand il est venu chez nous, c'est tout Kinshasa là qui était visé par les Qatariens qui sont venus ici. Au lieu que nous qui vous parlons ici, nous puissions dire au président les réalités, ces mêmes gens-là se sont infiltrés comme nous les Qatariens pour dire les histoires que nous n'avons pas palpé ici au Qatar oriental. Il faut voir comment les avions ont mangé, comment transporter les gens. Et le président a reçu les gens qui ne sont pas de chez nous. J'ai trop mal quand je vous dis là. En tout cas, le président, s'il nous écoute, il doit comprendre que les gens qui l'ont reçu là, ce ne sont pas les Kassaïens qui ont coûté au problème d'eau, l'électricité, les routes, tout ça. Ce sont des
mais quand même, dans le meeting populaire, on a vu hein, l'étape de Kananga. Par exemple, la population interrompait le président à tout moment. Ils ont crié, des jeunes ont pu lui dire. Oui, Kalo.
Mais chez nous, ils sont Kassaï orientales. Le président n'a pas donné le temps, comme les autres provinces, pour nous lui expliquer les histoires. Ici, chez nous, celui qui a expliqué, c'est tout. Il a reçu les gens de Kinshasa comme les gens de Kassaï orientales. En tout cas, il doit nous écouter. En tout cas, ces gens-là sont là pour les détruire. Et
voilà.
Pour détruire
alors, là, vous proposez trois pistes. Si, oui, merci beaucoup, Kalo. Vous proposez trois pistes. Vous estimez qu'il faut d'abord la retenue à la source des 40% parce qu'il y a trop de pommes aussi. Hein, avec la rétrocession, on sait comment ça arrive. On sait quel est le montant que Kinshasa envoie. Comment ça arrive auprès des ETD. Qu'est-ce qui se passe? Vous évoquez aussi les leaderships responsables au niveau de ces provinces. On sait que, par exemple, le Kassaï-Oriental, on a un gouverneur gouverneur intérimaire. Kassai central, il y a un gouverneur intérimaire. La province du Kassai, le gouverneur était démis de ses fonctions par une motion. Il a été réhabilité par la justice. On sait aussi que dans le Sankourou, il y a des problèmes entre le gouverneur au niveau des assemblées provinciales. Ça dit qu'il y a tous ces problèmes. Vous estimez que ça déstabilise aussi les provinces quand on n'a pas un leadership responsable. La deuxième chose, vous estimez aussi qu'il faut le contrôle au niveau du gouvernement. Mais là, c'est exactement le problème. Dans notre psychologie, les gens, ils estiment que c'est le chef qui agit, c'est le chef de l'État qui répond. Mais sur le plan juridique, c'est le gouvernement. Alors, vous avez suivi le député Ngoï Kassangi qui dit, aujourd'hui, il y a des problèmes sérieux, des interférences avec le cabinet du chef de l'État, les conseillers, et on ne sait pas aussi comment le ministre ne serait-il pas avec beaucoup de mains libres aujourd'hui pour pouvoir répondre sur certains projets. Voilà. Merci beaucoup, Kalo Kalonji. Alors, nous retournons aussi à Kinshasa avec vous, Espérant. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci et meilleur vœu à l'invité et aux auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Espérant.
Oui, la première des choses pour y arriver, c'est le désenclavement des provinces du Grand Kassai qui sont notamment dans les souffrances notoires. Étant donné que la politique du bureau ne paye pas, le président de la République, chef de l'État, a compris qu'il faut être vraiment sur terrain, et c'est là que nous saluons davantage sa tournée, comment il a vécu et comment il est en train de vivre les souffrances exagérées de la population kassaïenne. À ce niveau et à cet état des choses, le président de la République, en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, doit notamment lui impliquer personnellement afin de pouvoir matérialiser son projet d'abord, son slogan de peuple d'abord. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a vraiment cacophonie des choses. Vous retrouvez par exemple un conseiller qui assume les fonctions notamment des membres du gouvernement qui doivent gérer et coordonner certains projets qui doivent notamment faire à ce que le pays avance. Sur cet aspect-là, le fait que le chef de l'État n'a pas encore mis la main sur c'est catastrophique. Maintenant, pour que les provinces avancent et progressent, il a fallu aussi ajouter par rapport à la retenue à la source. Je me rappelle autrefois lors de la conférence sur la paix à Kananga en 2017, l'honorable Moïse Katangi, à ce temps-là, il fut gouverneur du Kassai oriental, il avait notamment plaidé la retenue à la source. Parce que je me rappelle de ça. Oui, pour les difficultés notamment, nous aimerions aussi que le président de la République encourage le province afin de pouvoir appliquer la coopération dite décentralisée avec les provinces sœurs, notamment des pays voisins qui nous entourent, pour matérialiser un peu et nous rendre un peu plus facile la vie pour que cette population-là qui est vraiment dans la souffrance notoire pour se retrouver. Les présidents de la République doit vraiment sanctionner, en tant que garant de la nation et de bon fonctionnement des institutions, doit vraiment avoir une équipe qui doit l'accompagner afin de ne pas pouvoir toujours autant de gens au milieu de lui qui l'entourent, chacun a de son côté des conseillers de part et d'autre. Vraiment, nous aimerions que cela ça se réalise. Sinon, le peuple catalan aujourd'hui ne se retrouve pas, je ne pense pas que lui, en tant que fils de ce coin du pays, et prochainement, avec le régime qui pourra venir, sans lui, le Kassai ne va pas aussi vraiment se développer.
Je crois que le chef de l'État n'agit pas parce qu'il est vraiment fils du Kassai. Le chef de l'État, il est garant des institutions, il agit parce qu'il est président de la République. Mais vous estimez quand même, parce que c'est un besoin réel, les gens s'expriment là-dessus, ils ont besoin de voir des actions palpables. Alors, vous parlez de l'implication personnelle du président de la République, vous avez parlé de retenir à la source des 40% en termes de recettes qui peuvent permettre aux provinces de pouvoir initier des projets à la base, mais vous avez aussi évoqué la coopération avec des provinces de pays voisins, et là d'ailleurs, dans l'espace Grand Kassai, on évoque cette route de Kalambambouji qui relie la province de Lunda Nord de l'Angola avec la province du Kassai central. Tout le monde réclame cette route pour estimer qu'elle peut faciliter aujourd'hui les échanges commerciaux entre le Kassai et l'Angola. Merci beaucoup, Espérant. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, M. Pierrot. Bonjour également à l'invité. Je pense que peut-on parler, c'est ça la question que moi je commence déjà, peut-on parler d'une tournée fixée à un moment inopportun. C'est ça la question, la première question que je me pose. Ne fallait-il pas l'effectuer préalablement? Bon, ce qui est vrai, c'est que les Grands Castrailles étaient un espace totalement enclavé, d'ailleurs rongé par plusieurs têtes d'érosion, à telle enseigne que si l'on y prend garde, cette province ou ces provinces risquent d'être connectées, bien sûr, d'autres. Bon, moi, je me dis à ce stade, c'était bien, j'ai apprécié un peu l'interactivité du chef de l'État avec la population donc du Grand Kassai. Moi, je vois que la population avait beaucoup de choses à déposer comme cahier de charges vis-à-vis, n'est-ce pas, du chef de l'État. Pourquoi je dis que c'est arrivé avec retard? Parce que moi, je me dis, bon, étant fils du terroir, il pouvait, n'est-ce pas, prendre les choses à bras le corps, être là à temps, parce que c'est son fief, il a vu ce qui se passe dans
Est-ce que Jérémy, le chef de l'État, se déplace en termes de priorité? Il y avait, par exemple, cette tournée qu'il a obligé de résider à Beni par rapport à la question de l'insécurité, la question du volcan. Il a pu faire les tueries avec la question de la guerre. Ça, c'est le chef de l'État. Est-ce qu'il faudrait-il que le chef de l'État se rende rapidement au Kassai parce qu'il est, il a été élu au Kassai où il est restructant du Kassai? Ou le chef de l'État agit en fonction des priorités du pays?
Non, on ne convient pas, M. Pierrot. Il est le chef de l'État, il est le président de tout dans toutes les provinces. Mais moi, je me dis à ce stade, ça fait longtemps. Moi, et à un certain moment, je me pose la question, est-ce que réellement il y a des députés, ces députés qui sont là, qui siègent au Parlement, est-ce que réellement ils prennent soin de leur province? Parce que moi, je me dis, ils sont là à la députation, mais leur province vraiment est désaxée d'autres. Moi, je me dis, moi, je suis à Lubumbashi. Mais je vois ceux qui viennent, comment est-ce que Lubumbashi, ce n'est plus comme les Kassai. On dirait, regardez un peu l'aéroport là qu'on appelle Bipemba. C'est pratiquement un champ de patates. Mais c'est quand vous regardez un peu, il n'y a plus de route. Et regardez le problème des chutes Katende. Le problème des chutes Katende, c'est on attend, lorsque les échéances arrivent, c'est en ce moment-là qu'on cherche à électrifier les Kassai. Mais tout ce temps ici, on ne fait rien. On attend les échéances.
Alors, là, je crois qu'on est maintenant dans le fait. Vous estimez que, bon, chef de l'État est déjà parti. Il a vu les Kassai, on connaît les problèmes. Alors maintenant, on a besoin de savoir, Jérémy, concrètement, dans ce temps qui reste, quels sont les points les plus prioritaires, ce qui doit être fait d'une manière plus efficace, pour pouvoir résoudre tous ces problèmes, même si on ne peut pas tous les résoudre.
Les priorités pour le moment, il faut d'abord chercher à ce que le désenclavement de ces provinces soit vraiment mis en exergue. Ça veut dire on essaye un peu d'ouvrir l'espace par rapport à d'autres. Mais vous savez, lorsqu'il y a l'électrification, c'est ce que j'ai dit, il y aura beaucoup d'investissements. Et de deux, il y a les écoles qui n'existent que des noms. Là-bas, est-ce qu'il y a des écoles? C'est à peine qu'on a peut-être une école ou deux. Mais moi, je me dis, vous savez que là-bas, quand on étudie, on a une fille qui arrive en sixième primaire, carrément, il va en mariage. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez d'écoles. Il faut revoir ce secteur infrastructure. En Bougimaï, il n'y a que deux routes, par exemple. Dans les Kassai orientales, il n'y a que deux routes.
Merci beaucoup Jérémy, parce que vous avez posé les diagnostics de ce qui a été dit depuis. C'est ce que les gens ont pu dire au chef de l'État, nous avons besoin des écoles. D'ailleurs, vous avez parlé de la question des mariages précoces, le chef de l'État l'a dit à Chikapa, il a sensibilisé, il a insisté beaucoup sur cette question des mariages précoces. Mais alors, parce que nous allons bientôt chuter dans cette émission, Deo, vous êtes à Kananga, le problème ont été déjà posé pour vous. Quels sont les mécanismes plus efficaces qu'il faut mettre en place pour que les mesures qui vont être prises, vous l'avez suivi avec notre invité tout à l'heure qui a évoqué ce développement à la base des 145 territoires. Mais alors, qu'est-ce qui doit accompagner cela pour que ça puisse avoir une action visible sur terrain de haut rapidement?
Merci beaucoup. Rapidement, comme le point était déjà soulevé, rapidement, d'abord, la priorité au Kassai, c'est le désenclavement et le courant électrique. Pour, n'est-ce pas, commencer ce développement-là dès la base, comme le souligne le chef de l'État, qu'on commence d'abord par les routes d'interconnexion de provinces et les routes d'intérêt, n'est-ce pas, économique, comme la route des frontières de Kalambambushi-Kananga et les routes, n'est-ce pas, des certes agricoles, sans oublier, n'est-ce pas, la question des courants électriques, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, les politiciens commencent à faire comme un ballon d'essai pour juger si l'électorat est encore avec eux ou pas, parce que depuis les législations passées, les régions passées, les projets ici est bien connus par les politiciens, mais ils les jettent dans les oubliettes, ils attendent au moment opportun lorsque les échéances électorales commencent à s'approcher. Non, nous voulons maintenant, quel est votre problème? C'est comme si ces gens ici, depuis l'opposition jusqu'aujourd'hui au pouvoir, ne connaissent pas les problèmes de Kassai. Or, le président Kabila a laissé ses problèmes sur le tableau. Un projet de 2 ans doit durer 18 ans. Il est parti, il l'a laissé. L'autre vient, il a maintenant 3 ans. Et c'est maintenant là qu'il commence à faire comme s'il ne connaissait pas le problème du Kassai. Or, c'est un problème qui est bien connu. Ce qui manque, c'est la conscience des politiciens. Si on interactionnait, n'est-ce pas, les routes des dessertes agricoles et des autres, n'est-ce pas, d'intérêt économique, et on achevait les projets, Chitkaté n'est pas ce qu'elle a laissé à 60%, je trouve que la population, n'est-ce pas, centre kassaïen, sera pas prendre, n'est-ce pas, son élan parce qu'elle sait comment se battre de gauche à droite, trouver, n'est-ce pas, comment elle peut créer des petites micro-entreprises.
Alors, vous avez évoqué
un développement qui voilà. Peut quand même aussi remplir la caisse de l'État.
Voilà, de haut, vous avez dit les problèmes sont connus, je suis qu'attendé, on parle des 60%, mais c'est de savoir exactement 60% de quoi qui est fait sur terrain. Alors, vous avez évoqué la conscience, hein. Vous avez dit, pour tout cela, il faut la question des consciences des politiciens, s'il n'y a pas la conscience, on ne peut pas y arriver. Alors, nous revenons à vous, monsieur Alphonse Goïka-Sangi, avant d'écouter Simon qui est à Matadi, vous êtes député national élu de Mbujimaï et ancien gouverneur. Alors, les amis, les compatriotes reviennent tout à l'heure sur la question des retenues, des 40%. C'est un débat éternel, hein. C'est que la Constitution dit, d'un côté, il y a la rétrocession, on sait comment la rétrocession arrive au niveau des provinces, et c'est ce qu'on en fait. Alors, et l'ensemble de ce que les auditeurs venaient de dire tout à l'heure, quelle est votre réaction?
Bien, ce que les auditeurs doivent savoir, le peuple congolais doit savoir que dans le budget 2022, il y a les allocations budgétaires réservées pour chaque territoire. Donc, il y a un montant destiné aux investissements dans chaque territoire. Mmh. Et cet argent, c'est la gestion de cet argent qui doit faire comment est-ce qu'on doit gérer, comment est-ce que qui sont les acteurs qui doivent intervenir directement dans la gestion de ces ressources. Les acteurs, oui, il y a le ministre des ministères sectoriels pour chaque projet. Par exemple, en termes d'électricité. Aujourd'hui, l'approche qu'il faut faire, c'est une approche que j'appelle toujours pragmatique. Nous avons le court terme, parce que nous n'avons qu'une année, comme je l'ai dit. Mm-hmm. Et il y a des projets qui peuvent s'exécuter à moyen terme, mais à court terme, nous avons besoin des centrales photovoltaïques qu'on appelle les centrales solaires. Parce que quand on les construit, on peut les construire en ayant 3 mois, 6 mois, nous avons déjà une centrale. Donc, pour avoir les impacts visibles directement au cours de l'année 2022, nous avons proposé les centrales photovoltaïques. Nous proposons également la solution de forage partout dans tous nos territoires pour l'accès à l'eau potable. Les routes, le Grand Kassai a besoin de se connecter au port de Lobito, donc le port de proximité. C'est pourquoi la route de Grand Mabouche est prioritaire. Et les acteurs, il y a l'office des routes, il y a l'OVD, mais les suivis maintenant, c'est le ministère sectoriel, les ministres sectoriels, ça y est, le ministre des Infrastructures, nous avons le gouverneur de province, nous avons les administrateurs des territoires et nous avons les chefs de secteur et la société civile. Les élus sont là pour faire exercer leur rôle de contrôleur. Mm-hmm. Mais j'ai entendu un autre auditeur parler de la retenue à la source. La retenue à la source ne peut pas être à l'ordre du jour aujourd'hui. Parce que il y a les entités qui ne produisent même pas, qui ne contribuent même pas au budget national. Il n'y a rien. S'il faut parler de la retenue à la source, on ne retiendra même pas quelque chose. Donc il faut simplement une contribution nationale à redistribuer dans toutes les entités de la République. Il y a un auditeur qui a parlé de l'inactivité des parlementaires. Bon, j'ai relevé en fait ici que dans beaucoup de projets qu'on a exécutés, c'est la présidence de la République, ce sont les conseillers du président. Et le Parlement ne peut pas contrôler la présidence. Voilà pourquoi nous voulons qu'on responsabilise le gouvernement. C'est le gouvernement qui a la responsabilité d'exécuter les projets des sociétés de ce pays, dans ce pays. Le chef de l'État joue un rôle, il est inactif, mais c'est le gouvernement qui doit travailler. Lui donne, lève les options et le gouvernement exécute. Donc voilà pourquoi nous devons nous prendre les choses en main. La population doit être regardante par rapport quand on annonce un financement qui a $1 million pour les infrastructures. Le peuple doit suivre aussi
son administrateur du territoire, il doit suivre le chef de secteur, il doit suivre le gouverneur, si on exécute cela et permettre à ce que ses représentants au niveau des assemblées provinciales puissent jouer leur rôle de contrôler, de sanctionner le gouverneur. Comme on n'a pas encore les conseils de communes, de secteurs, ce sont les assemblées provinciales qui exercent le rôle de contrôler et de sanctionner ces entités-là. Donc,
alors,
tout le
rapidement,
monde doit se mettre debout.
Rapidement, parce qu'il faut qu'on écoute les auditeurs, vous avez évoqué cette question de manque de coordination aujourd'hui entre ce qui se passe au niveau de la présidence, les conseillers, avec la responsabilité du gouvernement. Vous l'avez dit, les élus ne peuvent pas contrôler la présidence aujourd'hui. Mais est-ce que ces choses ont été relevées dans le dialogue que le président a accordé aux notables, par exemple, quand vous avez eu le temps? Est-ce qu'on a eu le temps de dire au chef de l'État, voilà, si des choses n'ont pas marché ici, les Chilésules ou ailleurs, c'est parce qu'il y a cette interférence de vos conseillers? Est-ce que vous avez eu le temps de lui dire, parce que je pense qu'il vous a accordé des audiences dans cette tournée?
Le chef est au courant de tout, et d'ailleurs les sanctions vont tomber, donc lui ne badine pas, donc il a compris qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché, il y a certains conseillers qui sont responsables des détournements de fonds, et bientôt là, vous verrez que la justice sera pied d'œuvre. Et les sanctions vont tomber.
Voilà, on va écouter rapidement deux auditeurs. On revient à vous pour conclure cet échange, Monsieur Alphonse Ngoï Kassangi. Simon est à Matadi, Gu est à Kananga. Dommage, Simon et Gu, vous n'avez peut-être qu'une minute tout simplement pour synthétiser votre point de vue sur la question des mesures efficaces qu'il faut prendre. Simon, merci d'être avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est Simon Tsiloulou depuis Matadi et heureuse année à vous et à l'invité aussi.
Rapidement,
les mesures efficaces qu'il faudra prendre pour cette République, c'est d'abord le suivi. Le suivi, même si c'est 1000 francs, quand il y a suivi, vous verrez une gestion orthodoxe. Quand il n'y a pas suivi, les gens font tout ce qu'ils veulent. Vous voyez l'itinérance des chefs de l'État dans un seul coin. Vous voyez maintenant des vérités qui commencent à sortir. Et ça, sur le plan psychologique, les décideurs ou sinon ceux qui exécutent les projets du gouvernement commenceront à avoir peur. Mais lorsqu'il n'y a pas l'itinérance de suivi, il y a laxisme qui règne. N'importe qui peut profiter de ce laxisme pour se taper l'argent de l'État comme son argent de poche. Moi, en tout cas, j'insiste sur ce point. Et déjà, le président de la République a commencé avec cet exercice d'itinérance. Donc, il sillonne les provinces. Il faut aussi que les gouverneurs dans des provinces, quand il y a un projet, qu'ils fassent l'itinérance. Parce que avec l'itinérance, suivi de l'itinérance, vous allez commencer à palper les réalités du terrain.
Voilà.
Puisque aujourd'hui, il y a parfois la surfacturation de certains projets parce que vous n'avez pas fait l'itinérance, vous n'avez pas compris les vrais problèmes et
se pose.
Les coûts que
ça fait.
Et ça,
c'est question aussi des responsabilités. Merci beaucoup, Simon, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quand vous parlez de la surfacturation, c'est un problème de conscience parce qu'il y a un auditeur qui l'a dit tout à l'heure. Alors, Guy, vous êtes à Kananga. Juste en un mot, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait d'une manière efficace parce que nous devons terminer cette émission, Guy?
Oui, en un mot, comme le temps ne me permet plus, nous avions émis le vœu que les projets que le chef doit proposer, les projets des 145 territoires qu'il a tant changé ici dans la région du Kasaï, on doit associer la population locale, s'impliquer pour qu'ils puissent s'approprier de ces projets. Parce que si la population est associée, moi je pense qu'il y aura,
Moyen de pouvoir
elle-même.
Voilà. Merci beaucoup, Guy. Merci, on ne saura pas aller plus loin.
Malheureusement,
le temps. Alors, on revient à vous, M. Alphonse Ngoï Kassangi. Juste un mot pour pouvoir conclure cet échange autour de ces mesures efficaces. Vraiment, c'est la conclusion, oui.
Oui, la conclusion, c'est maintenant l'implication de tous. Population, société civile, les élus, les autorités locales, ainsi que le gouvernement. Tout le monde doit se mettre en œuvre pour que cette année soit une année de réussite, de grande visibilité
dans notre espace Grand Kassai.
Merci, voilà. Merci beaucoup, M. Alphonse Oyekasanji, député national élu de Mbujima et ancien gouverneur, je le disais tout à l'heure, notable de l'espace Grand Kassai. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à Louange Vangou qui a réalisé cette émission mise en onde par Bob Lando, quant à moi, Piero et la Mégie. Je vous retrouve pour le prochain numéro des Paroles aux auditeurs. Mais vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir.